C'est Nathalie Loiseau. Bonjour madame.
Bonjour.
Membre du groupe chargé de suivre les négociations en Brexit au Parlement européen. Alors on nous annonce depuis hier soir un accord imminent entre Londres et l'Union européenne. Ça devait être annoncé hier soir, puis ce matin à 8h. Toujours rien, on en est où concrètement ?
Écoutez, ce que j'entends, c'est que Boris Johnson et Ursula von der Leyen sont en train de se parler et que juste après, il devrait y avoir une conférence de presse confirmant qu'un accord est intervenu.
Donc, ça y est, on peut le dire, il y a un accord qui a été trouvé.
Sauf énorme surprise de toute dernière minute, et on sait que le Brexit nous a tenus en haleine depuis longtemps, un accord est enfin trouvé à un moment où c'était véritablement la date limite pour pouvoir aboutir à un accord qui rentrera en vigueur le 1er janvier.
Est-ce qu'on sait qui a lâché du lest ?
Alors, un bon accord, c'est pas un accord avec des perdants et des gagnants. Un bon accord, c'est un accord où le réalisme l'emporte sur l'idéologie. Et de ce point de vue-là, le réalisme, le pragmatisme ont été du côté de l'Union européenne depuis le début et jusqu'à la fin. Et fort heureusement, l'idéologie simpliste qui a été un petit peu le slogan permanent du Brexit a dû s'adapter aux soucis et aux priorités que sont les citoyens, les entreprises, de part et d'autre de la Manche. Moi, ce matin, je me mets à la place d'une entreprise européenne qui a une semaine pour se préparer aux nouvelles conditions d'un accord qu'elle n'a pas encore vu. Je suis soulagée que cet accord ait lieu, mais je ne suis pas en train de crier victoire, parce que je trouve insupportable que ce suspense ait été imposé à nos entreprises.
Oui, vous dites une entreprise qui n'a pas encore découvert l'accord. On parle d'un document qui ferait 2000 pages, donc on imagine que l'application va être très 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 compliquée.
Alors, de toute façon, les choses vont changer à partir du 1er janvier. Il ne peut pas y avoir la même fluidité à partir du moment où le Royaume-Uni quitte le marché unique et quitte l'union douanière qu'il y avait avant, quand il était membre de l'Union européenne. Un accord sur le Brexit, c'est un accord qui limite les dégâts. Mais n'oublions pas une chose, le Brexit, c'est la plus mauvaise réponse aux questions qu'on peut se poser sur l'Europe. Des questions sur l'Europe, tout le monde en a. L'envie d'une Europe qui marche mieux et plus fort, tout le monde la partage. Mais il y a deux moyens d'y arriver. Soit la faire changer de l'intérieur, et il s'est passé beaucoup de choses dans la dernière année, soit partir en claquant la porte comme l'ont fait les Britanniques, et finalement revenir en suppliant que l'on puisse limiter les dégâts d'une décision qui était très irréfléchie.
Est-ce que vous pensez que les images qu'on voit depuis plusieurs jours en raison de cette nouvelle souche du Covid-19, ces camions bloqués à la frontière, est-ce que ces images ont influencé peut-être Boris Johnson et son gouvernement de se dire « Ok, s'il y a un Brexit sans accord, on va en arriver à ça, il faut qu'on trouve un accord ». Est-ce que ça a joué ?
En tout cas, ces images, elles montrent ce que c'est que la vénération inconditionnelle des frontières. Ceux qui disent que les frontières oublient à quel point on est liés les uns avec les autres à travers tout le continent et avec le Royaume-Uni. Donc, pour tous ceux qui avaient pensé que le Brexit était une promenade de santé et qu'il n'y aurait pas de conséquences économiques à un slogan politique, ce qui se passe à Douvres a probablement aidé à ouvrir les yeux et à retrouver ce réalisme que nous appelions de nos voeux.
Nathalie Loiseau, hier, certaines sources, notamment françaises, parlaient d'énormes concessions, je cite, de la part des Britanniques. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Est-ce que c'est sur la pêche qu'ils ont lâché ? On sait que c'était un dossier qui coinçait ?
Alors en réalité, comme souvent avec Boris Johnson, ils ont fini par accepter le contraire de ce qu'ils avaient prôné au départ. Que ce soit sur la capacité de s'assurer que les Britanniques ne s'éloignent pas de nos priorités européennes en matière d'environnement, en matière de droit du travail, sans que cela ait des conséquences. Boris Johnson ne voulait pas en entendre parler et finalement il l'a accepté parce que c'est ce que ses entreprises souhaitent. Elles souhaitent rester le plus proche possible des standards européens. Et sur la pêche, la proposition britannique de départ et même encore il y a quelques jours ou quelques heures était inacceptable.
Parce que c'était quoi et on aboutit à quoi ?
Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails extrêmement techniques, mais les Britanniques disaient ce sont nos eaux et donc ce qu'on y pêche doit nous y revenir pour une très large part. Alors, nous avons rappelé plusieurs vérités, c'est-à-dire que les pêcheurs européens pêchaient dans des eaux avant qu'elles ne deviennent britanniques et avant que l'Union européenne n'existe. Ce sont des siècles de tradition de pêche qui existent. À partir de là, nous savions que les choses ne pouvaient pas être comme avant quand le Royaume-Uni était État membre de l'Union européenne. Et je rends hommage à la fermeté du négociateur Michel Barnier et à la fermeté des autorités françaises qui n'ont cessé de rappeler que les pêcheurs européens ne devaient pas être les laissés pour compte du Brexit. De là à dire que l'accord, c'est la prolongation du statu quo précédent, ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est une forme d'accord qui limite les dégâts pour les pêcheurs européens. Mais là encore, oui, il y a eu des très grosses concessions britanniques, mais malheureusement, ce que nous faisions ensemble pour pêcher ensemble jusqu'à maintenant a été détruit par le Brexit, par des postures politiques, idéologiques, qui ne servent que à se draper dans un nationalisme de façade et qui, à la fin des fins, ne rendent pas service au peuple et aux citoyens. Moi, je me souviens, avec une certaine amertume, de Mme Le Pen qui disait qu'il fallait sabler le champagne au moment du Brexit. J'aimerais qu'elle aille le dire les yeux dans les yeux aux pêcheurs européens. Mais ils ont été très bien défendus par Michel Barnier.
Justement, les pêcheurs, on parle des navires européens qui devraient finalement renoncer progressivement à 25% de leur prise dans les eaux britanniques. C'est bien ça ?
Écoutez, on attend d'avoir le texte. Moi, je n'ai pas le texte. Vous l'avez dit, ce texte fait pas loin de 2000 pages. En tant que parlementaire européenne, je vais regarder en détail l'ensemble des précisions de ce texte et nous ne donnerons notre accord pour une ratification l'année prochaine que si nous sommes absolument sûrs que les intérêts des Européens sont préservés au mieux.
Des pêcheurs européens et des pêcheurs français, on sait qu'ils étaient très inquiets.
Et des pêcheurs français notamment. Je dois dire aussi que sur le cas de la pêche, comme précédemment au moment de l'accord de retrait sur le cas de l'Irlande, les Européens sont restés parfaitement unis entre eux. Tous ceux qui avaient parié sur une division ou une désunion des 27 face au Royaume-Uni se sont trompés. De bout en bout, les 27 sont restés parfaitement unis. Les groupes politiques du Parlement européen, de la même manière. Alors bien sûr, nous avons travaillé à cette unité. Michel Barnier a sans arrêt, avec beaucoup de transparence, tenu les parlementaires, tenu les gouvernements des États membres au courant de ce qu'ils négociaient, de la manière dont ils le négociaient. Mais tous ceux qui voient l'Europe comme un rassemblement de pays désunis avec des intérêts divergents ont la preuve, ils ont une double preuve. C'est que l'unité des 27 a tenu et que l'Union européenne a un numéro de téléphone, c'est celui d'Ursula von der Leyen. Quand Boris Johnson a essayé d'appeler Emmanuel Macron, Angela Merkel ou d'autres chefs d'État et de gouvernement pour parler du Brexit, tous l'ont très courtoisement mais très fermement renvoyé vers la présidente de la Commission.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Nathalie Loiseau ? Parce que, ok, il y a un accord, mais il faut qu'il soit ratifié par les 27 de façon unanime et on imagine bien qu'il ne pourra pas entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain. Comment ça va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines ?
En réalité, de manière à éviter au maximum les conséquences négatives du Brexit, nous avons accepté qu'il y ait une application provisoire de l'accord dès le 1er janvier. Nous avons vu ce qui s'était passé et ce qui se passe encore à Douvres. Ça n'est pas la peine de rajouter de la complexité. Donc dès lors que les 27 chefs d'État et de gouvernement donnent leur feu vert, l'accord s'applique de manière provisoire au 1er janvier, ce qui nous laisse à nos parlementaires le temps de regarder tous les détails avant de ratifier cet accord quelque part au début de 2021.
On sait, Nathalie Loiseau, que ça fait quelques jours que le dossier est géré directement par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et par le Premier ministre britannique Boris Johnson. C'est ça qui a permis de tout débloquer, finalement, que les deux prennent le dossier en main ?
Alors, on sait que sur des accords d'une importance pareille, il était essentiel, et j'allais même dire, il était temps que Boris Johnson mette les mains dans le cambouis. Plutôt, souvenons-nous que cette urgence, elle est née du fait que Boris Johnson a imposé un calendrier sans précédent, 9 mois de négociations, sur des accords beaucoup moins ambitieux, comme on en a passé par exemple avec le Japon, il avait fallu 5 ans de négociations. Boris Johnson a imposé ce calendrier très rapide. Il s'est lui-même impliqué très tardivement dans la négociation. Nous avons dit, nous Européens, nous avons été aussi flexibles que possible, d'une patience, je crois, digne d'éloge s'agissant de Michel Barnier et de son équipe de négociation. Nous avons dit la semaine dernière, nous, Parlement européen, qu'il était trop tard pour une ratification dès cette année. Et nous savions que pour les chefs d'État et de gouvernement, j'allais dire d'ici la fin de cette matinée, il serait trop tard pour une application provisoire au 1er janvier. C'est ça qui a fait la pression. La fermeté, la clarté, la transparence des Européens et un calendrier qui n'avait rien d'idéologique, là encore, qui était un calendrier de raison.
Merci beaucoup, Nathalie Loiseau, députée La République En Marche, membre du groupe chargé de suivre les négociations Brexit au Parlement européen. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Et donc, je le rappelle, cette information, un accord imminent, je reprends vos propos, entre Londres et l'Union européenne sur le Brexit. Il n'y aura donc pas de no deal. Merci d'avoir réagi à chaud sur notre antenne.